Vous écoutez France Culture.
これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
Le Gai Savoir.
Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la lecture, Georges Clès.
Et à la réalisation, Francesco Caonac. C'est la suite aujourd'hui d'une émission sur les essais esthétiques de David Hume dans Le Gai Savoir. Hume est un drôle de sceptique qui non seulement ne renonce pas à l'idée d'universel, mais qui surtout pour y parvenir, choisit d'emprunter le chemin paradoxal de l'impression singulière. Comment, en s'en tenant à soi, accéder à l'universel ? Comment s'y prendre donc ? Comment faire pour dépasser nos sensations ? Tout un chacun est susceptible de dire à la fois chacun ses goûts et dans le même temps que tout ne se vaut pas. Comment rendre raison de cela ? Ce passage du singulier à l'universel repose chez Hume sur la question de la délicatesse, c'est-à-dire une forme de noviciat perpétuel qui situe la candeur au principe de la connaissance.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
Et pour ne pas tirer notre philosophie d'une source trop profonde, nous aurons recours à une histoire remarquable qui se trouve dans Don Quichotte. Il y a une bonne raison, dit Sancho, chevalier au grand nez, si je prétends être juge en matière de vin, car c'est une qualité héréditaire dans notre famille. Deux de mes parents furent un jour appelés à donner leur opinion sur un tonneau de vin qu'on supposait excellent, vu son âge et son bon cru. L'un des deux le goûte, le considère, et après mûre réflexion, déclare que le vin est bon, si ce n'est un léger goût de cuir qu'il perçoit en lui. L'autre, après avoir usé des mêmes précautions, donne aussi son verdict en faveur du vin, mais avec cette réserve, un goût de fer qu'il peut aisément distinguer. Vous ne sauriez imaginer comme leurs jugements furent tournés en ridicule. Mais qui fut le dernier à rire ? Quand le vin fut bu, on trouva, au fond du tonneau, une vieille clé attachée à une lanière de cuir.
C'est génial, ça, hein ?
Oui, c'est très drôle, quoi.
C'est très drôle, mais ça dit tout, hein ? Tout l'essai de Hume sur la norme du goût, et même les autres d'ailleurs, tous les essais esthétiques de Hume sont concentrés dans cette histoire.
Mais il n'y a pas un passage dans L'aile ou la cuisse avec Louis de Funès qui pourrait illustrer un petit peu ce...
Mais oui, vous avez raison, tiens, on va l'entendre.
Belle robe vermeille, un peu violette, bel éclat, c'est un Bordeaux, un grand Bordeaux. Un peu de pourriture noble en suspension, les impuretés descendent lentement. Ce vin a 23 ans. C'est un 53, une très grande année. Le vin, c'est la terre. Celle-ci est légèrement graveleuse. C'est un médoc. Le vin, c'est aussi le soleil. Ce vin a profité d'une belle exposition sud-ouest sur un coteau de bonne pente. C'est un Saint-Julien. Château Léoville-Lascaz, 1953. Exact.
C'est remarquable, non ?
Oui, et il faut rappeler qu'en plus, Louis de Funès, au moment où il fait ce concours, c'est vous qui me l'avez rappelé en début d'émission.
Oui, il ne sent plus les saveurs.
Il ne sent plus les saveurs.
Donc c'est uniquement en regardant le vin. Parce que dans L'aile ou la cuisse, Louis de Funès et Coluche, qui sont père et fils, sont deux experts qui travaillent pour des guides fameux et qui sont des champions de la bonne bouffe, si vous voulez, de la vraie bonne bouffe. Et ils bataillent, ils ferraillent contre le roi des supermarchés qui vend des poulets en plastique à la moitié du monde, si vous voulez. C'est un des premiers films sur la malbouffe. C'est un très bon film, d'ailleurs, c'est indépendamment du fait que c'est hilarant comme tous les films avec Louis de Funès. Il faut bien être attentif, c'est que, justement, c'est par une extrême attention que Louis de Funès parvient, sans goûter le vin, à dire ce qu'il est. C'est en le regardant, rien ne lui échappe. complètement.
Et ce n'est pas la même chose. Enfin, au moment où vous parliez, il y a un autre passage dont on avait parlé qui m'est revenu à l'esprit. C'est dans Zadig.
Zadig, à un moment, le chien et le cheval du roi et de la reine s'évadent, s'échappent, sont perdus. Et donc, évidemment, toute la cour est en émoi pour rechercher cela. Et il croise Zadig dans un jardin. Il dit, avez-vous vu le cheval ? Ah oui, c'est un... non, dit Zadig. Enfin, plus exactement, est-ce un cheval de 6 pieds de haut et qui marche l'amble, etc. Oui, mais par où est-il passé ? J'en sais rien, dit Zadig, je ne l'ai pas vu. Et quant au chien, ah oui, c'est un épagneul qui traîne un peu la patte, etc., etc. Il donne là aussi des tas d'informations. Et en fait, toutes les informations lui viennent de son sens de l'observation. C'est uniquement parce qu'il a observé le paysage et la façon dont les animaux ont laissé leurs traces ici et là qu'il a pu déduire, un, que c'était ici un cheval et là un chien, deux, qu'il y avait telle ou telle particularité physique pour le cheval et pour le chien. C'est un mélange d'attention et de déduction. C'est-à-dire, c'est un travail de détective auquel se livre Zadig de Voltaire. Et on n'est pas tout à fait chez Hume dans la mesure où, parce que Voltaire, disciple de Locke en vérité, est un empiriste bien sûr, mais c'est un empiriste qui ne sacrifie pas la puissance de la connaissance. Et donc il joue sur les deux tableaux dans ce chapitre de Zadig auquel vous faites référence, et vous avez bien raison de le faire.
Et pour en revenir donc à Hume et à cette anecdote...
Hume et Louis de Funès.
Et Louis de Funès, et donc à l'histoire de l'œnologue dans les deux cas, j'ai plutôt une question, une interrogation. Dans quelle mesure est-ce vraiment, puisque c'est le cas de la délicatesse, mais dans quelle mesure est-ce vraiment une appréciation ? C'est plutôt un constat, un diagnostic, parce que deviner que c'est un Saint-Julien, ce n'est pas dire que c'est un bon vin, d'une
non,
certaine manière.
Tout à fait.
Donc c'est plus un constat.
C'est une métamorphose, une mutation de l'impression en constat. C'est ça qui est fort. On s'est demandé la semaine dernière de quelle façon on pouvait, alors que nos sentiments ne renseignent que sur nous, alors que nos opinions prétendent renseigner sur un objet, et qu'au fond, dans l'infinité des opinions disponibles, il n'y en a qu'une qui est vraie. Et qu'on dise la vérité par hasard ou qu'on la dise parce qu'on l'a trouvée, dans tous les cas, si vous voulez, il n'y a qu'une vérité. Alors que nos sentiments, eux, ne sont jamais faux. Feelings ne sont jamais faux. Vous éprouvez quelque chose, vous éprouvez quelque chose. Peu importe que ce que vous éprouviez renvoie ou non à une chose existant réellement. C'est pas le problème. Vous pouvez être sincèrement amoureux d'un personnage de roman que vous n'avez jamais croisé. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de problème. Au fond, vos impressions ne renseignent que sur elles-mêmes. Et comment peut-on, à partir d'une impression, d'un sentiment qui ne renseigne que sur lui-même, en étant suffisamment attentif à ce sentiment, ce qui est au fond le travail de l'art, accéder à autre chose que ce sentiment ? Comment creuser ce sentiment pour parvenir à l'objet lui-même qui nous l'inspire ? Un instant sur Louis de Funès, avant d'en venir au texte du Don Quichotte. Louis de Funès a perdu le sens des saveurs. Et Coluche, qui est censé goûter le vin, enfin qui goûte le vin et qui ne trouve pas le vin, donc échoue à dire ce qu'est le vin, et c'est là que Louis de Funès intervient pour dire ce qu'il est uniquement en le regardant, c'est-à-dire en posant sur lui un œil extraordinairement précis, attentif, scrupuleux, alors bien sûr teinté d'une connaissance, du Médoc, de la pente, des inclinations du soleil, etc., etc. Mais en réalité, la seule chose qui compte ici, c'est l'attention extrême qu'il porte au breuvage qu'il a dans le verre, qu'il regarde et qui lui permet de dire à coup sûr de quoi il s'agit. Dans le texte de Hume, c'est exactement la même histoire. Exactement la même histoire. Deux types goûtent un vin. Ils passent pour des experts. L'un des deux dit « le vin est excellent, mais il a un goût de cuir ». L'autre dit « le vin est excellent, mais il a un goût de fer ». Évidemment, tout le monde se marre. Or, là où l'histoire est géniale, c'est qu'une fois qu'on a vidé le tonneau, on découvre que les deux avaient raison. Ce qui renseigne sur deux choses. La première, le fait de découvrir la clé à lanière de cuir, prouve qu'il y a une vérité, au fond. Et que cette vérité, elle est à la portée de nos sens. Et ça, c'est fondamental. C'est pas parce qu'on est empiriste qu'on a renoncé à l'idée de vérité. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est empiriste qu'on renonce au réel, au fond, ou qu'on sacrifie le réel au simple résultat des impressions qu'il dépose en nous. Non, les impressions qu'il dépose en nous sont un chemin recevable pour accéder à la réalité elle-même. Et ça, c'est une révolution, en fait. Le deuxième point, et là plus qu'ancien, concerne la nature même du dialogue qui se noue entre les individus. Bien souvent, des opinions sont divergentes, et les individus croient qu'ils sont en désaccord. Mais les gens ne sont en désaccord ou ne pensent être en désaccord ou ne pratiquent des opinions divergentes, non pas parce qu'ils sont en désaccord, mais uniquement, ils ne le font que parce qu'en réalité, leurs opinions, leurs avis sont complémentaires. Et ce qu'on interprète comme une divergence tant qu'on n'a pas le fin mot de l'histoire apparaît in fine comme une complémentarité. Et il y a, derrière, dans cette anecdote, et c'est pas un hasard si Hume la cite, la traduit et la met dans cet essai, la constitution de ce qu'il appellera plus tard une aristocratie du goût. C'est-à-dire, il y a, que voulez-vous, c'est pas qu'il y a les gens qui savent et les gens qui ignorent, c'est qu'il y a les gens qui savent sentir, et les gens dont les sensations sont obstruées par ce qu'ils croient savoir. Et c'est ça la différence, c'est là que le partage s'opère.
Un peu à la façon dont Stendhal, dans Le Rouge et le Noir, dédicace son roman To the Happy Few.
Oui, tout à fait. Effectivement, l'aristocratie que désigne ici Stendhal, ce peuple élu, des gens qui sont capables de le comprendre, c'est l'aristocratie de ceux qui n'ont pas recouvert leur opinion sur la littérature, tout simplement de l'idée qu'ils s'en font, ou du sentiment qu'un livre doit être impeccablement composé, ou qu'un auteur doit avoir le plan de la composition avant d'entamer l'écriture de son livre. Les happy few, c'est ceux qui sont capables de comprendre cette geste stendhalienne extraordinaire qui lui permet de produire un chef-d'œuvre si rapidement, tout en négligeant résolument les motifs officiels de composition, si vous voulez. À la façon dont certains happy few ont su voir dans le Cid, ont su faire droit à l'émotion que produisait le Cid, malgré ce qu'ils croyaient savoir de l'art théâtral, que le Cid semblait battre en brèche ou auquel le Cid semblait tourner le dos.
Oui, puisque vous avez prononcé le mot aristocratie, que Hume utilise aussi, du goût, donc c'est ceux qui ont un palais délicat, par exemple, mais on peut penser à un conte que tous les enfants ont en tête et qui l'illustre bien, c'est par exemple la princesse au petit pois.
Ah oui, absolument.
Je l'utilise puisqu'elle est aristocrate, puisqu'elle est princesse.
C'est ça qui vous y fait penser, mais en fait, c'est pas ça l'enjeu. Mais vous qui êtes une princesse, Paola, vous savez bien que ce que raconte la princesse au petit pois ressemble à un caprice. Elle ne peut pas dormir parce qu'elle sent quelque chose sous son matelas, ça la gêne beaucoup, etc. etc. Elle ne peut pas dormir. Tout le monde, au fond, elle est risible, la princesse au petit pois, jusqu'au moment où on découvre qu'il y a un petit pois. C'est le moment où on s'aperçoit qu'on n'est pas dans le caprice. De la même manière qu'on n'est pas dans la blague avec les deux œnologues qui perçoivent l'un du fer et l'autre du cuir. On est dans une extrême attention dont la société, en tant que société, dont une collectivité, en tant que collectivité, n'est pas capable. Tout simplement parce qu'une collectivité a besoin d'idées générales. Il y a deux points de vue dans cette affaire. Il y a le point de vue du sujet. Du point de vue du sujet, la leçon de l'anecdote du Don Quichotte, c'est qu'un désaccord n'implique pas toujours une opposition, mais une complémentarité. Bon, ça c'est très important. Mais c'est pas seulement, c'est pas tout. Parce que si ça n'était que ça, Hume serait effectivement le réveil matin de Kant. Du point de vue de l'objet, c'est ça qui est intéressant, c'est que la vérité nous est accessible par les sens. Et c'est la splendeur de l'empirisme de Hume. Il ne s'agit pas seulement de dire que nos sensations sont imperméables à la fausseté puisqu'elles ne renvoient qu'à elles-mêmes, ce qu'il dit au départ de son texte, mais de dire que nos sensations peuvent à l'occasion produire des jugements qui sont plus que vrais, qui sont délicats. Écoutez Hume, bien qu'il soit certain que la beauté et la laideur, encore plus que le doux et l'amer, ne soient pas des qualités qui se trouvent dans les objets, mais qu'elles appartiennent aux sentiments, internes ou externes, il faut reconnaître qu'il y a certaines qualités des objets qui, par nature, sont propres à produire ces sentiments particuliers. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a certaines qualités des objets qui sont propres à produire ces sentiments particuliers. Quand les organes sont si fins qu'ils ne laissent rien échapper, et en même temps si rigoureux qu'ils perçoivent tous les ingrédients dans une composition, dit-il, on appelle ça la délicatesse de goût. Que ces sens, que ces termes soient employés dans un sens littéral ou dans un sens métaphorique. Et on en vient ici à l'idée d'une sorte d'aristocratisme humien. Il y a une aristocratie du goût, c'est-à-dire il y a des hommes qui ont le goût plus délicat que d'autres et on comprend comment il peut, à partir de cette base empirique et de l'idée que tout se vaut, enfin, de l'idée qu'on ne discute pas des goûts et des couleurs puisque chacun a les siens, on peut malgré tout fonder quelque chose qui ressemble à une norme. Parce qu'il y a des gens, c'est pas qu'il y a des gens qui savent, et encore une fois, hein, c'est pas qu'il y a des gens qui savent et des gens qui ignorent. C'est il y a des gens qui sentent et il y a des gens dont la sensation est recouverte par ce qu'ils croient savoir. Il y a des gens qui sentent malgré ce qu'ils croient savoir et des gens qui savent et par conséquent en oublient de sentir. L'aristocratie du goût est du côté d'une sensibilité qui n'est pas altérée par la connaissance.
Et pour le reste, pour ceux qui ne font pas partie de cette élite du goût, faut-il s'en remettre à ces hommes de goût ?
Alors, la sagesse commande de s'en remettre à ces hommes de goût, mais pourquoi ? Parce que ce sont des éducateurs. C'est un peuple élu qui est ouvert à tous, si vous voulez. C'est un élitisme pour tous, l'aristocratisme humien, en l'occurrence. Le paradoxe de la délicatesse, cette forme très subtile de la candeur qu'il met en évidence pour permettre d'établir une norme du goût. Ce paradoxe, c'est qu'elle s'acquiert par le travail des sens, dont le but, encore une fois, n'est pas d'apprendre quelque chose, mais d'oublier tout ce qui sépare nos sens de la réalité qu'ils nous donnent à percevoir plus ou moins confusément selon qu'ils sont affûtés, déliés ou au contraire obstrués par une maladie ou par des préjugés. Écoutez Hume, bien qu'il y ait naturellement une large différence du point de vue de la délicatesse entre une personne et une autre personne, rien ne tend davantage à accroître et améliorer ce talent que la pratique d'un art particulier et le fréquent examen, la fréquente contemplation d'une espèce particulière de beauté. En d'autres termes, la candeur s'acquiert par le travail. Et ce travail, vous savez par quoi ça passe ? Par la fréquentation des œuvres d'art.
Avec la nuance d'une certaine idée de spécialisation dans un certain domaine. Enfin, l'homme de goût doit être spécialisé, par exemple l'œnologue, ou on ne peut pas être très bon musicologue et très bon critique de
souvenez-vous,
peinture.
Souvenez-vous du passage de Bergson dans l'objet de l'art, enfin dans le rire. Quel est l'objet de l'art ? Il dit, entre nous, entre le monde et nous, que dis-je, entre nous et nous-mêmes, une fée a tissé un voile qui recouvre la réalité de toutes les généralités dont j'ai besoin pour vivre. En gros, je ne vois pas les choses mêmes, je vois les étiquettes que j'ai posées sur elles, parce que j'en ai besoin pour vivre au quotidien. J'ai besoin de recouvrir les choses d'étiquettes et de les identifier. De les identifier, de les réduire à ce dont j'ai besoin qu'elles... Enfin, à ce que je voudrais qu'elles soient, au fond. Ou à ce qu'elles sont pour moi, à leur fonction. Bon. Et puis, de temps en temps, pour certains d'entre nous, dit Bergson, artiste, une fée, la même fée, lève le voile. Elle lève le voile, c'est-à-dire qu'elle nous révèle le monde séparément du besoin qu'on en a. Et là, on accède au réel. Et il dit toujours, c'est par un des sens, en trois mots, que cette fée a levé le voile. Et évidemment, Bergson joue sur les mots, parce que c'est par un des sens, et c'est par un des sens que cette fée a levé le voile, que la fée a levé le voile qui nous sépare du monde. De sorte qu'on peut considérer, effectivement, que chez Hume comme chez Bergson, si vous êtes peintre, ce sont peut-être les yeux, si vous êtes sculpteur, ce sont les mains, si vous êtes, peu importe l'organe, si vous voulez que la bonne fée, votre bonne fée privilégie. L'essentiel est de considérer que par un sens de vous-même, par une partie de vous-même, vous avez accès au monde séparément du besoin que vous en avez. Mais attention, c'est du travail. Et au fond, c'est comme la philosophie. C'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que la philosophie, Paola ? C'est la candeur. C'est la candeur. C'est s'étonner de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est la candeur. Mais c'est une candeur. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Quand on a dit que la philosophie, c'était la candeur, il y a des gens qui se précipitent dessus en disant « c'est super, on est tous philosophes, alors chouette !» Eh ben non, c'est là que ça commence, c'est là que ça devient difficile. Cette candeur, elle est au bout du chemin, elle s'obtient au terme d'un long travail, d'un travail d'intelligence, d'un travail de connaissance, d'accumulation de savoir qui culmine dans l'oubli des savoirs qu'on a accumulés. Mais si on ne fait pas ce geste-là, si on n'éprouve pas la difficulté de cet apprentissage du lexique de la philosophie, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas à cette candeur. La candeur est la récompense d'une forme d'ascèse, d'un travail qui, par ailleurs, lui fait courir le risque de la recouvrir.
Mmh. Et dans cette mesure-là, quelle peut être la différence, du coup, puisqu'on parle de candeur, entre celui qui, écoutant une symphonie ou une sonate, peu importe, s'exclame que c'est beau, et le même qui s'exclame que c'est beau aussi, mais qui sait expliquer dans quelle mesure, parce que tel accord est placé là, ou à ce moment-là, le violon émet, je ne sais pas, tel son qu'il n'aurait pas dû émettre, enfin, je ne sais pas, enfin...
Alors, c'est très intéressant. Prenez deux spectateurs, hein, deux spectateurs. Il y en a un qui connaît bien les choses, ok, ils vont à l'opéra, il y en a un qui connaît bien les choses, et il y en a un autre qui ne connaît rien. Bon, et les deux sont émus. Le second ne peut pas dire pourquoi il est ému, mais il est ému. Le premier peut dire ce qui se passe, ce que fait le musicien à tel instant et pourquoi telle émotion est suscitée, éveillée, etc. Bon. Alors, le handicap du premier, c'est qu'il ne sait pas dire les raisons qui l'émeuvent et par conséquent, il y a des tas de choses, des tas de merveilles qui lui passent à côté, qui lui passent au-dessus de la tête, auxquelles il n'est pas sensible et dont il découvre l'existence en écoutant l'expert. Qui lui dit, mais attention, là, ce qui te touche, c'est qu'en fait, il a joué ça. C'est que là, là, Wagner a mis un accord totalement baroque, c'est ça qui te touche. Au début, au tout début de sa pièce géante, il a mis un accord tellement baroque, c'est ça qui t'émeut, c'est ça qui te touche, parce que c'est une révolution musicale, etc., etc. Donc il reçoit ces informations de celui qui sait. Donc le handicap du second, du type qui est ému sans savoir pourquoi, c'est que, il sait pas pourquoi. Et qu'il passe à côté de plein de choses. Et dans le même temps, son émotion, est réel. On peut lui faire crédit de cela. Un peu comme Pretty Woman, vous savez, la première fois qu'elle va à l'opéra. Richard Gere lui dit « Si vous êtes ému, vous en aurez pour la vie ». Et de fait, elle est bouleversée aux larmes, elle va écouter la Dame aux Camélias et elle s'en remet pas. Bon, elle est sauvée. C'est sa rédemption. Le handicap du premier, de l'expert, c'est qu'il sait tellement de choses qu'il est capable d'en oublier ce qu'il écoute, au profit, par exemple, de la supériorité d'une interprétation sur une autre. Un exemple. J'aime tellement, je ne suis pas un expert, au contraire d'ailleurs, mais j'aime tellement la première gymnopédie d'Eric Satie. Je trouve que c'est un morceau, j'arrête là les confidences, mais je trouve que c'est un morceau si beau, si juste, si... petite phrase de Vinteuil, si vous voulez, si extraordinaire, que je suis toujours déçu et je suis un peu séparé de mon plaisir quand je l'entends dans une autre interprétation que celle dans laquelle, à l'intérieur de laquelle j'ai appris à aimer ce morceau, qui était la version qu'en proposait Anne Kefelec. Quand j'entends Alexandre Tarot, qui est un extraordinaire pianiste, jouer la première gymnopédie, il me manque un truc. Donc je suis séparé de mon plaisir par ce que je crois en savoir, au fond, par ce que je crois en percevoir, si vous voulez. C'est comme si mon savoir s'était cristallisé en impression et en vérité en clivage sensible, qui du coup me sépare d'une interprétation parce que j'accorde toute vertu et tout mérite à une interprétation aux dépens des autres. Donc vous voyez, ces deux spectateurs, ils sont dans cette position-là. Mais le travail chez Hume, il se fait par comparaison. C'est-à-dire que Hume dit ceci, hein, il est impossible de continuer à pratiquer la contemplation des différents ordres de beauté sans être fréquemment obligé de faire des comparaisons entre les diverses espèces et les divers degrés d'excellence et de juger de leurs rapports. Un homme qui n'a pas eu l'occasion de comparer les différents genres de beauté est en vérité entièrement incompétent pour donner une opinion sur un objet qui se présente à lui. C'est par la comparaison seule que nous déterminons les épithètes d'éloge ou de blâme et que nous apprenons à leur assigner le degré qui convient. Le barbouillage le plus grossier contient un certain éclat de couleur et d'exactitude dans l'imitation qui, loin d'être des beautés, ne feront naître la plus haute admiration que chez un paysan ou un indien. La ballade la plus vulgaire n'est pas entièrement dénuée d'harmonie ou de naturel, mais seule une personne accoutumée à des beautés supérieures déclarera que ses parties sont rudes ou que le récit est sans intérêt. Une beauté très inférieure fait souffrir une personne habituée aux plus grandes excellences du genre et sera pour cette raison considérée comme laide, de même que l'objet le plus accompli que nous connaissons est naturellement supposé avoir atteint le sommet de la perfection et mérité les plus grands éloges. En d'autres termes, comparaison, oui, mais la comparaison ne vaut que si on s'affranchit des préjugés. Il faut comparer sans préjugés. Il dit ceci, hein, pour pouvoir le plus pleinement comparer, on doit garder notre esprit libre de tout préjugé et ne pas permettre qu'entre dans sa considération autre chose que l'objet même qui est soumis à son examen. Mais évidemment, la comparaison n'est possible que si elle s'est dépouillée de tout préjugé, à commencer par les préjugés d'une époque, qui valaient par exemple aux gens de jeter des tomates quand ils ont vu le Sacre du Printemps pour la première fois. Or, il y a une beauté dans le Sacre du Printemps, dans la pièce de Stravinsky, qui dépasse le contexte de sa diffusion et le scandale que produisit cette œuvre, dont la valeur ne tient pas à la puissance transgressive, mais à la beauté propre.
C'est intéressant de noter que c'est pas parce qu'une œuvre est subversive ou transgressive qu'elle est belle. Enfin, surtout à notre époque, j'ai rien contre l'art contemporain en soi, mais bon, peu importe. Mais souvent, on attache de l'importance à une œuvre dans la mesure où elle est subversive, parce qu'elle choque, parce qu'elle va à l'encontre.
On évalue la qualité d'une œuvre à sa puissance novatrice ou à la novation du geste qui la porte. C'est-à-dire que la qualité d'une œuvre, et c'est tout l'inconvénient du geste d'une certaine forme d'art contemporain, l'inconvénient est ici d'évaluer une œuvre en fonction de l'audace qui lui donne le jour ou de la teneur en novation qu'elle comporte. Or, évidemment, réduire la qualité d'une œuvre à son geste fait que tout simplement on ne s'intéresse plus à l'œuvre, on ne s'intéresse plus qu'au geste qui lui a donné le jour. Autant produire des sculptures qui s'autodétruisent, ce qui est arrivé. Évaluer une œuvre ou apprécier une œuvre, donner un prix ou une valeur à une œuvre en fonction du taux de nouveauté qu'elle comporte, expose cette œuvre à devenir sans intérêt le jour où il y a plus neuf qu'elle, si vous voulez. C'est Madame de Cambremer qui considère que Debussy c'est mieux que Wagner parce que ça vient après. Et qu'au fond, il y a un progrès en art. Ou alors c'est aujourd'hui, par exemple, la querelle entre les tenants de la tonalité et les partisans de Boulez, si vous voulez, en musique. C'est très étonnant parce que vous avez, c'est une querelle entre des avant-gardes antiques, si vous voulez, des avant-gardes qui remontent aux années 50 aujourd'hui, partisans d'une suppression quasiment de la tonalité. C'est une querelle entre des avant-gardes antiques, des avant-gardes vieillissantes, et une nouvelle garde qui est tenue pour réactionnaire par les avant-gardes qui ont 60 ans de plus, mais qui considère qu'au fond, ils en reviennent à une conception obsolète de l'art. Or, rien n'est plus obsolète qu'un art tributaire de son époque, de son temps, ou de la dose de nouveauté objective qu'il comporte. Rien n'est plus suspect d'obsolescence, soumis à la désuétude, qu'un art de cette nature-là, que cette façon-là de composer.
C'est le problème des artistes qui s'inscrivent eux-mêmes volontairement dans une histoire de l'art, en fait.
Voilà. Ou dans une histoire linéaire de l'art.
Dans
une histoire linéaire de l'art. C'est une histoire qui est tributaire de ce qui la précède et de ce qui vient après.
Et je me rappelle d'une phrase de Valérie qui est très juste. Enfin, je ne l'ai pas sous les yeux, donc c'est de mémoire, mais qui dit qu'il faut évaluer une œuvre non pas à sa faculté de choquer et d'être regardée, mais de revenir en mémoire. De la capacité qu'on a de se souvenir d'une œuvre et pas d'être choqué par elle.
Et cette capacité qu'on a de s'en souvenir, c'est une modalité du souvenir involontaire.
Oui, dans cette mesure-là.
Et évidemment, oui. C'est la capacité qu'on a de s'en souvenir malgré soi. C'est-à-dire, une œuvre, une mélodie, dont on se souvient sans faire le moindre effort pour cela, quel meilleur critère, au fond ? Quel meilleur critère d'évaluation de la qualité d'une œuvre d'art ? Qu'a-t-on besoin de science ici ? Non, il faut s'en tenir à l'impression. L'impression est bon juge ici. L'impression est bon juge. La nature, cette modalité du souvenir involontaire qui privilégie certaines choses sur d'autres. Que voulez-vous ? C'est ce qui fait que voilà, ça nous reste. Vous allez au cinéma, vous allez voir deux films. Okay. L'un des deux est une merveille et l'autre est un film tout à fait médiocre. Bon. Vous n'aurez aucun effort à faire pour vous souvenir du premier, et vous aurez toutes les peines du monde à retenir la trame du second. Ce qui disparaît sans laisser de traces dans votre esprit, alors que vous y allez avec toute la bonne volonté du monde, ce qui disparaît sans laisser de traces, tout simplement est utile, est un symptôme de son époque, est pris dans son temps, mais n'a pas vocation à rester, si vous voulez. C'est là l'évidence. En revanche, observons une chose, c'est que l'un des dangers, évidemment, des opinions, c'est d'être dicté par notre époque, par le contexte. On a entendu quelques mesures de Stravinsky et on peut bien comprendre que la réception du Sacre du Printemps est aussi comptable de l'époque et du contexte historique dans lequel cette œuvre a été conçue. Bien. Et au fond, ce sur quoi Hume nous met en garde ici, ce contre quoi il nous met en garde, c'est le fait que, laissons de côté l'esthétique même, beaucoup de nos opinions ne sont pas dictées par le raisonnement, mais par la sociologie, par l'époque. Combien de gens parlent au nom de la raison, tout en tenant le discours qu'on peut s'attendre à les voir tenir, compte tenu de leur situation sociale ou de l'époque où ils parlent. Ce que je veux dire, c'est que les opinions sont toujours genrées, si vous voulez. Non pas genrées au sens de homme-femme ou masculin-féminin, non, genrées au sens où elles sont soumises aux conditions de leur énonciation, bien souvent. De tous les préjugés, c'est peut-être le plus tenace aux yeux de Hume. Et c'est d'ailleurs pour ça que les opinions n'ont en général aucun intérêt. Elles n'ont que l'intérêt d'être le symptôme de l'époque. Et c'est aussi pour cela qu'il est essentiel de penser contre soi-même. Écoutez Hume, on sait bien que dans toutes les questions soumises à l'entendement, les préjugés détruisent les jugements sains et pervertissent les opérations des facultés intellectuelles. Tout comme ils sont contraires au bon goût, ils ont une influence pour corrompre notre sentiment de la beauté. Une opinion est toujours bête, parce qu'elle est toujours comptable des conditions de son énonciation. Par exemple, dans La recherche du temps perdu, qu'on n'a pas cité la semaine dernière, tiens. Dans La recherche du temps perdu, il y a un passage sur le patriotisme. Et c'est sur le patriotisme du baron de Charlus. Il se trouve que Charlus est pour l'Allemagne. Il n'ose pas le dire, vraiment. Il est pour l'Allemagne, si vous voulez, c'est le fils d'une bavaroise, d'une duchesse bavaroise. Il est pro-allemand. Mais c'est parce qu'il est pro-allemand qu'il est particulièrement sensible à l'insondable sottise des patriotes français. C'est-à-dire que la sottise des francophiles de son temps ne lui vient pas du constat objectif que les patriotes sont tous des imbéciles, si vous voulez, mais du fait que il est lui-même patriote allemand, au fond, en définitive. C'est-à-dire que ce qui le rend sensible à la bêtise du patriotisme, c'est sa propre bêtise, c'est son propre préjugé. Et au fond, ce qu'il découvre ici, et ce que le narrateur de la recherche découvre, c'est que les patriotes sont tous du même métal affectif. Il dit ça. La logique qui les conduit est intérieure, perpétuellement refondue par la passion. Comme la querelle d'un fils avec son père, d'une cuisinière avec sa patronne, d'une femme avec son mari. Même celui qui a raison donne parfois de son bon droit des arguments qui ne lui paraissent irréfutables que parce qu'ils répondent à sa passion. Et le narrateur, qui lui-même est patriote francophile, constate que même quand un patriote dit vrai, c'est-à-dire défend la France, à ses yeux, c'est ça, hein, dire la vérité, eh bien, c'est toujours par hasard. Quand son opinion est saine, c'est toujours une coïncidence. Le patriotisme est un discours, c'est une façon pour un individu de se conduire comme un atome. Et cette manière qu'on a d'abjurer toute singularité montre combien nos opinions, le plus souvent, sont dictées par notre appartenance. Et que de tous les préjugés, c'est peut-être le plus prégnant. Et il en va de même en matière d'esthétique, naturellement. Un individu qui n'aime pas le Sacre du Printemps parce que ça ne correspond pas, ça n'est pas son genre de beauté, est un individu qui est tellement tributaire de son époque qu'en définitive, il est rendu hermétique à ce qu'il y a d'objective beauté à l'intérieur du Sacre du Printemps.
Un jeune homme, dans la chaleur de ses passions, sera plus sensiblement touché par des images d'amour et de tendresse qu'un homme plus avancé en âge qui prend plaisir à des réflexions sages et philosophiques sur la conduite de la vie et la modération des passions. À 20 ans, Ovide peut être l'auteur préféré. À 40, ce sera Horace et à 50, Tacite. Dans ce cas, c'est en vain que nous tenterions d'entrer dans les sentiments d'autrui et de nous détacher de ces penchants qui nous sont naturels. Nous choisissons notre auteur favori comme nous choisissons notre ami à cause d'une conformité d'humeur et de disposition. La gaieté ou la passion, le sentiment ou la réflexion, ce qui prédomine dans notre tempérament, nous donne une sympathie particulière pour l'auteur qui nous ressemble.
Je t'aime. Je voulais quand même te dire merci. Vous trouvez ma conseil ?
Mais à quel âge on aime Patrick Bruel, Raphaël ?
Mais je ne sais pas, Paola. Peut-être n'avez-vous jamais été jeune, après tout.
Pas à la même époque.
Oui, mais regardez ce qui se passe là. Ce qui est intéressant avec Patrick Bruel, avec tout le respect qu'on lui doit naturellement, commence un peu à traverser les époques. Ce qui est intéressant avec Patrick Bruel, c'est que des gens dont on peut entendre les hurlements d'amour ici... écoutez, ils n'ont plus tout à fait le même âge, quoi. C'est que la nature de la passion que cet homme inspire varie peut-être selon l'âge de son public. Vous voulez, celui qu'on adore quand on a 14, 15, 16, 17, 18 ans, 19 ans, 20 ans, on ne l'aime plus de la même façon, sinon par le souvenir de l'amour qu'on a eu pour lui quand on a 30 ou 40 ans. Et Hume ne dit pas autre chose quand il explique que la différence d'humeur des individus, c'est-à-dire, est un des éléments déterminants dans le jugement de goût.
Oui, mais lui, il met des auteurs différents, et d'ailleurs que des auteurs latins, mais il met Ovid, Horace, Tacite. Il ne dit pas qu'à tel âge on aime ça chez Ovid, à tel autre moment on aime ça chez Ovid.
Ben voilà, voilà. Alors lui dit Ovid, Horace, Tacite, c'est la même chose que de dire chez Patrick Bruel, comment ça va pour vous, et puis ensuite décalé, et puis ensuite je ne sais pas qui, si vous voulez, ou je ne sais pas quelle chanson, peu importe, où on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Je veux dire, ce qui est important, c'est de faire la part de tout ce qui en soi altère notre jugement de goût, altère notre impression, nous sépare de notre impression véritable. C'est-à-dire la part de jeunesse, d'enfance, de désir, de goût d'idolâtré, qui va dans le fait de hurler Patrick et de tomber en syncope quand il entre en scène. Ou Patrick Bruel ou Justin Bieber, on s'en fout. Là, en l'occurrence, il ne s'agit pas des artistes en question. C'est pas ça qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est le rapport que le public, qu'un certain public, entretient avec l'idole de son choix. Et c'est le caractère malléable de ce lien. C'est-à-dire, c'est le fait qu'un amour est tributaire d'un certain âge. Il se passe un peu la même chose avec Proust. Parce qu'on ne le lit pas de la même manière selon qu'on le lit au bac ou qu'on le lit à la fin de la vie. C'est un livre kaléidoscopique qui change au fond presque de contenu selon le caractère, l'humeur et l'âge de son lecteur. Mais c'est plus radical, si vous voulez, quand il s'agit d'un amour tel, l'amour d'un fan pour son idole. Cet amour-là est comptable du passage du temps. Et le travail à faire, c'est séparer, comme on sépare le bon grain de l'ivraie, séparer tout ce qui en soi impose d'aimer. Impose d'aimer par l'époque, par le goût, par la silhouette, par tout ce qui correspond au désir qu'on peut avoir à tel ou tel moment de la vie, et qui par conséquent devient caduque quand notre désir, quand notre complexion singulière change. C'est de séparer ce qui est donc tributaire des altérations de notre corps, comme des changements d'époque, comme du fait qu'on vieillisse, de ce qui n'est pas altéré par cela. Et c'est ça qui compte. Que reste-t-il au fond ? Non pas de nos amours, mais que reste-t-il de nos amours ? Que reste-t-il de nos amours une fois qu'on a enlevé tout ce qu'elles n'étaient pas ? Une fois qu'on les a séparées de tout ce qu'elles n'étaient pas, de toute l'idolâtrie, de toute l'admiration, de toute la passion, de toute la folie, de tout le désir, qu'elles n'étaient pas complètement. Et parce que cette folie, cette passion, ce désir étaient d'abord tributaires d'un âge ou d'un caractère. La vraie question, c'est ça. C'est que reste-t-il de l'amour une fois qu'on lui enlève tout ce qui dépérit avec le temps, tout ce qui est comptable, tributaire de l'époque ou d'un âge. Et cette quête humienne d'une aristocratie du goût repose sur l'art pour un aristocrate du goût. Non seulement d'avoir le palais délié, c'est-à-dire de ne pas avoir de préjugés, mais de ne pas être dupe non plus de l'affection qu'il porte à quelqu'un, c'est-à-dire... À l'intérieur de l'impression qui est le viatique de Hume, qui est sa porte d'entrée vers la connaissance, vers le savoir, vers les objets, vers les choses, vers l'être lui-même. Il faut séparer les impressions qui nous viennent d'une idée, d'une époque, d'un temps, des impressions qui nous viennent tout simplement de l'objet lui-même. Et parce que seules celles-là sont en mesure de nous renseigner sur la nature de l'objet. L'amour véritable qu'inspire Patrick Bruel, Justin Bieber ou Mick Jagger, c'est ce qui reste de l'affection qu'on lui porte, d'un point de vue humain, c'est ce qui reste de l'affection qu'on lui porte une fois qu'on a changé d'époque, une fois qu'on a changé de vie, une fois qu'on a changé d'âge, une fois qu'on a changé de caractère et de façon d'être. Voilà, c'est ce qui reste de ça. Et qui n'est pas seulement la nostalgie qu'on peut avoir de l'époque où l'on aimait vraiment. Non, c'est ce qui reste séparément de tout ça.
Écoutez, Raphaël, il nous reste à peu près une vingtaine de minutes avant la fin de cette émission. Et il y aura encore tellement de choses à dire sur la norme du goût. Et on ne va pas faire une troisième émission, on ne va pas parler d'Hume tous les dimanches quand même.
Non, 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 pas tous les dimanches, mais on peut s'y promener de temps en temps. On essaiera, vous savez, on essaiera de parler de ces dialogues sur la religion naturelle.
Avec plaisir.
C'est pas mal, puisqu'il a ça en commun avec Rousseau, tiens d'ailleurs, parler d'une religion naturelle.
Je cède à cela si on peut céder à mon caprice, qui était de parler de la querelle entre Hume et Rousseau.
Oui, avec plaisir.
Qui est une querelle intéressante parce qu'on pourrait se dire mais pourquoi est-ce qu'on va parler de ça aujourd'hui alors qu'il n'y a pas de fondement philosophique à cette querelle ?
Je crois que si.
Moi, c'est le personnage, je vous le dis, dans cette querelle, c'est le personnage de Rousseau qui m'intéresse parce que savez-vous, Raphaël, par exemple, qu'il y a quelques mois encore, l'un des moteurs de recherche les plus utilisés d'Internet, que je ne vais pas citer, ne suggérait même pas le nom de Jean-Jacques Rousseau lorsque vous commenciez à taper les premières lettres qui forment le nom de cet illustre philosophe. Et c'est une légère ironie quand même de cet algorithme informatique parce que Rousseau aurait bien pu le mettre au compte s'il avait été encore vivant d'un complot universel.
Destiné à le faire taire, oui.
Exactement. Mais par contre, si on essaye de taper « querelle Rousseau », alors là, on vous propose immédiatement une liste abondante de philosophes qui ont eu des démêlés avec le Genevois, et parmi les plus célèbres, Hume, l'Écossais.
Mais vous savez, quand vous tapez « querelle Rousseau », vous tombez sur querelle Rousseau-Voltaire, querelle Rousseau-Diderot, Rousseau-D'Alembert, Rousseau-Hume, Rousseau, etc.
Mais j'ai essayé de faire ça avec d'autres philosophes, à part Kant Constant, et il n'y a pas grand-chose.
Querelle Kant Constant, sinon si vous tapez querelle Voltaire, vous aurez querelle Voltaire-Rousseau. Si vous tapez querelle Diderot, vous aurez querelle Diderot-Rousseau. Et si vous tapez querelle Spinoza, vous n'avez rien.
Et voilà. Mais mon but, par contre, n'est pas d'accabler ici cette âme sensible qu'est Rousseau, mais de mettre en évidence la marginalité de sa carrière philosophique, qu'honore quand même un goût du franc-parler et de la contradiction à une époque si polissée qu'est le XVIIIe siècle,
d'accord,
l'époque des salons.
C'est
vous n'êtes pas d'accord ?
Si, non, bien sûr, mais écoutez, moi j'ai le franc-parler, moi c'est... Il y a un moment, on peut être... Avoir de mauvaises manières n'est pas un signe d'indépendance.
Peut-être qu'un récit de la querelle s'impose d'une certaine manière.
Écoutez, ce qui est intéressant dans la querelle entre Hume et Rousseau, il faut pour cela remettre les choses dans leur contexte. C'est après la parution de l'Émile. Rousseau est contraint à l'exil après la parution de l'Émile et Hume, apprenant ça, on l'a fait bref, hein, Hume apprenant ça, lui propose tout simplement l'asile. L'asile en Grande-Bretagne. S'ensuit un échange de lettres d'une chaleur extrême. Non, monsieur, je ne vous rendais que la moitié de ce qui vous était dû quand je n'avais pour vous que de l'admiration, dit Rousseau. Vos grandes vues, votre étonnante impartialité, votre génie vous élèveraient trop au-dessus des autres hommes si votre bon cœur ne vous en rapprochait. Bon, Rousseau sait écrire, il sait tourner un compliment. Et effectivement, Rousseau et Hume s'entendent au début. Mais il faut bien pointer d'abord deux différences essentielles entre Hume et Rousseau qui sont à l'origine, au fond, de leur querelle, indépendamment des épisodes qui l'ont déterminée. La première, c'est que Hume est un homme affable. C'est un bon bourgeois, libéral, un peu ventripotent, affable, extraordinairement civilisé, gentil. Il n'y a pas de meilleure compagnie que cet homme-là, si vous voulez, que son propre bien-être ouvre sur d'autres paroles que la sienne et surtout le sentiment de ne pas détenir la vérité. Donc, c'est un homme d'excellente compagnie. Bon. On n'en dira pas autant du Jean-Jacques, qui, comme chacun sait, fait toujours son petit Jean-Jacques, qui n'est jamais content, ou alors qui est trop content, et qui dont les manières sont moins circonspectes que celles de Hume. Et puis la deuxième différence, c'est que Hume, on a parlé des essais esthétiques de Hume, quand on parlera du traité de la nature humaine, par exemple, de Hume, on verra que, ou de l'enquête sur l'entendement humain, on verra que l'une des trouvailles de Hume, c'est de déconstruire la catégorie de causalité. C'est-à-dire, c'est d'expliquer que c'est pas parce qu'une boule de billard en tape une autre que l'autre bouge. Ou plus exactement, quand on dit que le choc des deux boules est à l'origine du déplacement de la seconde, eh bien, on dépose une loi de l'esprit sur une réalité qui ne nous présente en réalité qu'une concomitance. En d'autres termes, pour Hume, ce qui nous semble une cause ne l'est peut-être pas. Et c'est tout le scepticisme de Hume qui repose là-dessus. Ce qui fait de Hume le contraire des théories du complot, si vous voulez, le pire ennemi des théories du complot. Qu'est-ce qu'une théorie du complot ? C'est le discours de celui qui considère que rien n'est là par hasard. Hume, c'est celui qui considère que même quand il y a une causalité apparemment objective, eh bien, il faut continuer de penser qu'il y a de la concomitance ou du hasard. Alors que Rousseau, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que même quand il n'y a aucun lien entre deux événements, il y voit, en paranoïaque qu'il est, un rapport de cause à effet. Voilà. Une fois qu'on a posé ça, on peut comprendre pourquoi il s'engueule. Hume accueille Rousseau les bras ouverts, d'accord ? Les bras ouverts. Il veut le servir. Il lui prend une maison. Il s'en occupe. Il prend soin de lui. Et Rousseau, au début, lui est extraordinairement reconnaissant. Il lui dit : faire un homme heureux, c'est mériter de l'être. Puissiez-vous trouver en vous-même le prix de tout ce que vous avez fait pour moi ? Seul, j'aurais pu trouver de l'hospitalité peut-être, mais je ne l'aurais jamais aussi bien goûté qu'en la tenant de votre amitié. Conservez-la-moi toujours, mon cher ami. Aimez-moi pour moi qui vous dois tant pour vous-même. Aimez-moi pour le bien que vous m'avez fait. Je sens tout le prix de votre sincère amitié. Je la désire ardemment. J'y veux répondre par toute la mienne. Je sens dans mon cœur de quoi vous convaincre un jour qu'elle n'est pas non plus sans quelque prix. Bon. Et puis alors, donc il arrive dans cette maison. On est en 1766. Et alors, il y a un premier problème, c'est que Rousseau ne parle pas un mot d'anglais. Et comme il ne parle pas un mot d'anglais, il met son point d'honneur à parler en français à des gens qui ne parlent pas un mot de français. Donc il dit, je ne leur parlerai que français, surtout si j'ai le bonheur qu'ils n'en sachent pas un mot. C'est à peu près la ruse des singes qui, disent les nègres, ne veulent pas parler quoi qu'ils le puissent, de peur qu'on ne les fasse travailler. Et puis, un peu plus loin, un peu plus tard, Hume est avec Rousseau à Calais. Et il lui demande, je demandais à Monsieur Rousseau s'il n'accepterait pas une pension du roi d'Angleterre, au cas que Sa Majesté voulût bien la lui accorder. Il me répondit que cela n'était pas sans difficulté. Mais bon, pourquoi pas ? Et là-dessus, un canular, un type que Hume connaît d'ailleurs, rédige une fausse lettre du supposé roi de Prusse à l'intention de Jean-Jacques Rousseau. Et la lettre est la suivante. « Mon cher Jean-Jacques, vous avez renoncé à Genève, votre patrie, vous vous êtes fait chasser de la Suisse, pays tant vanté dans vos écrits. La France vous a décrété, venez donc chez moi. J'admire vos talents, je m'amuse de vos rêveries, qui, soit dit en passant, vous occupent trop et trop longtemps. Il faut à la fin être sage et heureux. Vous avez fait assez parler de vous par des singularités peu convenables à un véritable grand homme. Démontrez à vos ennemis que vous pouvez avoir quelquefois le sens commun, cela les fâchera, sans vous faire tort. Mes états vous offrent une retraite paisible, je vous veux du bien et je vous en ferai si vous le trouvez bon. Mais si vous vous obstinez à rejeter mon secours, attendez-vous que je ne le dirai à personne. Si vous persistez à vous creuser l'esprit pour trouver de nouveaux malheurs, choisissez les tels que vous voudrez. Je suis roi, je puis vous en procurer au gré de vos souhaits. Et ce qui sûrement ne vous arrivera pas vis-à-vis de vos ennemis, je cesserai de vous persécuter quand vous cesserez de mettre votre gloire à l'être. Votre bon ami, Frédéric. » Cette lettre, qui a été écrite par un type qui s'appelle Horace Walpole, est un faux.
Et comment y réagit Rousseau ?
Alors voilà. Hume était dans le même hôtel que Walpole au moment où il a écrit cette lettre. Mais Walpole avait soigneusement caché cette plaisanterie, sachant que Rousseau allait arriver en Angleterre. Il la montra à quelques amis. On en fait des copies. Les copies se multiplient. Cette petite pièce se répand dans toute l'Europe. En Angleterre, on est particulièrement libre. Et par conséquent, ce texte finit par paraître dans la St. James Chronicle. Rousseau, à ce moment-là, réagit, sans humour. « Vous avez manqué, monsieur, au respect que tout particulier doit aux têtes couronnées en attribuant publiquement au roi de Prusse une lettre pleine d'extravagance et de méchanceté dont par cela seul vous deviez savoir qu'il ne pouvait être l'auteur. Vous avez même osé transcrire sa signature comme si vous l'aviez vue écrite de sa main. Je vous apprends, monsieur, que cette lettre a été fabriquée à Paris et ce qui navre et déchire mon cœur, que l'imposteur a des complices en Angleterre. Vous devez au roi de Prusse, à la vérité, à moi, d'imprimer la lettre que je vous écris et que je signe en réparation d'une faute que vous vous reprocheriez sans doute si vous saviez de quelle noirceur vous vous rendez l'instrument. Je vous fais, monsieur, mes sincères salutations. » Hume entend parler de tout ça. Il est inquiet. Si vous voulez, il est inquiet pour son ami. Et surtout, il découvre que c'est lui-même que Rousseau soupçonne. Hume apprend que sans la moindre preuve, sans aucune probabilité, et à tort, c'est lui-même que Rousseau soupçonne et accuse d'avoir fait imprimer cette satire, cette fausse lettre. « Et, dit-il, du plus cher de ses amis, me voilà sur le champ converti en ennemi perfide et méchant. Là-dessus, Rousseau écrit au général Conway, qui était chargé de transmettre sa demande de pension royale, écrit qu'il renonce à sa pension royale. En lui disant, vivement touché des grâces dont il plaît à sa majesté de m'honorer, etc. Bien sûr, là, il faut vous parler avec la franchise que vous aimez. Après tant de malheurs, je me croyais préparé à tous les événements possibles. Il m'en arrive pourtant que je n'avais pas prévu. Loin de me refuser au bienfait du roi par l'orgueil qu'on m'impute, je le mettrai à m'en glorifier. Et tout ce que j'y vois de pénible est de ne pouvoir m'en honorer aux yeux du public comme au mien. Mais lorsque je les recevrai, je veux pouvoir me livrer tout entier au sentiment qu'il m'inspire. Bref, il veut bien de la pension du roi, mais il veut que ça se sache. Il ne veut pas que ça reste confidentiel comme Hume le lui avait proposé au départ. Or, Hume déclare à ce moment-là qu'il reconnaît bien une faiblesse ordinaire de son ami, qui veut toujours être un objet d'intérêt en passant pour un homme opprimé par l'infortune, la maladie, les persécutions, lors même qu'il est le plus tranquille et le plus heureux. Alors, Hume, à qui cette lettre au général Conway lui apparaît comme un refus net d'accepter la pension, tant qu'on en ferait un secret, écrit à Rousseau en lui disant, bah écoutez, une lettre pleine d'amitié dans laquelle il l'exhorte à reprendre sa première façon de penser et à accepter la pension. Donc il essaie de le convaincre d'accepter cette pension en disant que peut-être le côté clandestin de cette pension pourra être lui-même passé sous silence, en d'autres termes qu'il y aura de la publicité à tout cela. Et puis, comme il ne reçoit aucune réponse, 3 semaines plus tard, il lui dit « Mais monsieur, je n'ai reçu aucune réponse de vous. J'en conclus que vous persévérez dans la résolution de refuser les bienfaits de sa majesté, tant qu'on en fera un secret. Je me suis en conséquence adressé au général Conway pour faire supprimer cette condition. Et j'ai été assez heureux pour obtenir de lui la promesse d'en parler au roi. » Et il continue en lui disant « Il faut seulement que nous sachions préalablement de Monsieur Rousseau s'il est disposé à accepter une pension qui lui serait accordée publiquement afin que Sa Majesté, le roi, ne soit pas exposé à un second refus. » Bon. Et réponse de Rousseau à Hume. « Je croyais, monsieur, que mon silence interprété par votre conscience en disait assez. Mais puisqu'il entre dans vos vues de ne pas l'entendre, je parlerai. Vous vous êtes mal caché, je vous connais, et vous ne l'ignorez pas. Sans liaison antérieure, sans querelle, sans démêlée, sans nous connaître autrement que par la réputation littéraire, vous vous empressez à m'offrir vos amis et vos soins. Touché de votre générosité, je me jette entre vos bras. Vous m'amenez en Angleterre, en apparence pour m'y procurer un asile, et en réalité, en effet, pour m'y déshonorer. Vous vous appliquez à cette noble œuvre avec un zèle digne de votre cœur et un succès digne de vos talents. Il n'en fallait pas tant pour réussir. Vous vivez dans le monde et moi dans la retraite. Le public aime à être trompé. Je connais pourtant un homme que vous ne tromperez pas, c'est vous-même. Je laisse libre cours aux manœuvres de vos amis, aux vôtres, et je vous abandonne avec peu de regret ma réputation pendant ma vie. Bien sûr qu'un jour, on rendra justice à tous les deux. Quant aux bons offices en matière d'intérêt avec lesquels vous vous masquez, je vous remercie et vous en dispense. Je me dois de n'avoir plus de commerce avec vous et de n'accepter pas même à mon avantage aucune affaire dont vous soyez le médiateur. Adieu, monsieur. » En d'autres termes, il soupçonne Hume de l'avoir fait venir en Angleterre, de lui avoir tendu un traquenard, de l'avoir fait venir en Angleterre, de l'avoir hébergé pour rendre public une fausse lettre du roi de Prusse qui le rend ridicule et, par ailleurs, le contraindre à accepter une pension dont le caractère secret serait ensuite révélé publiquement. Bref, il tient Hume pour le plus grand des manipulateurs.
Il dit même qu'il a entendu Hume en rêvant dire « Je tiens Jean-Jacques Rousseau » en français. Et Hume aura beau lui expliquer qu'il ne rêve pas en français.
Ah oui, c'est un passage extraordinaire. Ils sont au bord de la... Ils sont devant le feu. Et il entend Hume sortir de sa somnolence en déclarant « Je tiens Rousseau, je tiens Rousseau ». Et il y voit la preuve irréfragable de la duplicité de son faux ami. Réponse de Hume: la conscience me dit que j'en ai toujours agi avec vous de la manière la plus amicale et que je vous ai donné en toute occasion les preuves les plus tendres et les plus actives d'une sincère affection. Vous pouvez juger de l'extrême surprise que m'a causée la lecture de votre lettre. » Et alors, il continue, alors il dit « Mais je suppose qu'un infâme calomniateur m'a noirci auprès de vous. En ce cas, le devoir vous oblige à me donner les moyens de connaître mon accusateur. Vous dites, par ailleurs, ajoute Hume, que je sais moi-même que je vous ai trahi, mais je le dis hautement et je le dirai à tout l'univers, je sais le contraire. Je sais que mon amitié pour vous a été sans borne et sans relâche. Et quoique je vous ai donné des preuves qui sont universellement connues en France et en Angleterre, le public n'en connaît encore que la plus petite partie. » Bref, Hume se défend. Et là-dessus, et on va finir là-dessus, Rousseau envoie à Hume une lettre de 20 pages, Paola, qui commence par « Je suis malade et peu en état d'écrire ». D'accord ? Et après, s'en suivent 20 pages, totalement folles. Il commence par se décrire en majesté, je ne sais ce que je sens, mais comme on me le fait bien sentir, je le sais bien. L'accusateur, monsieur, le seul homme au monde qui déposant contre vous pouvait se faire écouter de moi, c'est vous-même. Je vais me livrer sans réserve et sans crainte à mon caractère ouvert. Je suis ennemi de tout artifice, etc., etc. Et s'en suivent 20 pages d'une paranoïa totale. Au terme desquelles, Hume, contraint, si vous voulez, par la publicité que Rousseau voulait donner à l'offense que Hume lui avait faite, ou qu'il croyait que Hume lui avait faite, Hume a gardé toutes les pièces de cette querelle, qui n'est pas à l'avantage de Rousseau, pour les rendre publiques, tout simplement pour laver son honneur, si vous voulez. Ça s'imposait. Mais ce qui est intéressant ici, dans cette histoire, c'est que, au fond... Hume finit par comprendre que le refus ostentatoire de la pension du roi d'Angleterre est en réalité justement ostentatoire. Il déclare que Rousseau se regarde comme le seul être important de l'univers et croit bonnement que tout le genre humain conspire contre lui. Ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est deux choses. La première, c'est que Hume, cet homme affable, civil, courtois, obstinément courtois, assez indifférent finalement, finit par sortir de ses gonds et rendu fou par l'accusation objectivement injuste que Rousseau lui fait. La seconde chose, il y en a une troisième, c'est que Rousseau est, comme avec Diderot, comme avec Voltaire, non, Voltaire l'a vraiment attaqué, mais comme avec Diderot en tout cas, comme avec son frère Diderot, comme avec D'Alembert, Rousseau est incapable de garder ses amis, non pas comme il le pense, au nom d'une trop haute idée de l'amitié, mais au fond parce que l'amitié chez lui est prise dans la suspicion de mauvaises intentions. Au fond, qu'est-ce qu'une amitié chez Rousseau ? Qu'est-ce qu'une amitié vécue ? C'est-à-dire non pas une amitié rêvée, mais une amitié vécue, c'est une amitié qui dépose sur de mauvaises intentions le masque flatteur d'attentions ostensibles. Et la troisième, c'est qu'il y a derrière, et c'est ça qui est important, c'est juste ce point-là, puis après on en finit avec ça en renvoyant nos auditeurs aux détails de cette querelle qui sont vraiment très drôles.
Ou à l'utopie de l'amitié dans la Nouvelle Héloïse.
Au fond, ce qui compte là-dedans, encore une fois, je crois, c'est le rapport qu'ils entretiennent l'un et l'autre avec la catégorie de causalité. Vous avez face à face un sceptique et un homme convaincu de ce qu'il pense. Vous avez d'un côté David Hume qui considère que même là où il semble y avoir une causalité objective, on peut considérer qu'il n'y a encore que du hasard ou de la concomitance. Et vous avez en face de lui, et c'est rare quand la philosophie recoupe à ce point le caractère, si vous voulez, vous avez en face de lui un homme qui, même quand il n'y a aucun rapport, il n'y a aucun rapport entre Hume et la lettre de Walpole, il n'y a aucun rapport entre la pension du roi et la possibilité d'un traquenard, il n'y a aucun rapport entre tout cela. Un homme qui s'attache à construire des liens, à tisser des rapports de causalité là où il n'y en a pas. Et cette différence entre un homme qui voit du hasard là où il y a de la cause et un homme qui voit des causes là où il n'y a que des concomitances, cette différence-là est une différence philologique et philosophique majeure. C'est la différence qui distingue le scepticisme de l'esprit de système. Le goût de douter de ce qu'on pense ou de penser contre soi-même, du goût d'avoir raison. Et enfin, pardonnez-moi, en l'occurrence, c'est la différence qu'il y a entre la générosité et l'art invraisemblable de lire dans cette générosité l'indice irréfragable de la duplicité à l'étal de laquelle toutes les amitiés sont périssables.
Et c'est parfois la part de Rousseau qu'il y a en nous tous et qu'on a du mal à admettre.
C'est vrai. Merci Paola, merci à tous, François Connac, Michel Mestre, Georges Kless, notre lecteur bien sûr, Alice Ramon, notre attachée de production. C'est la fin du Gai Savoir pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour y parler d'un truc beaucoup plus difficile mais tout aussi simple que cette semaine, L'œil et l'esprit de Maurice Merleau-Ponty, un petit diamant testamentaire de 80 pages dont le contenu a la densité d'une étoile vaincue par sa propre masse. Dans l'intervalle, les nouveaux chemins de la connaissance vous donnent rendez-vous tous les jours de 10h à 11h. Et cette fois-ci, pour une rediffusion, la rediffusion d'une excellente semaine sur Simone de Beauvoir, une semaine dont le titre était, si j'ai bonne mémoire, « En voiture, Simone ». On se retrouve dimanche prochain, donc, et en attendant sur Internet, à la page du Gai Savoir, où vous attendent téléchargement, bibliographie, ainsi naturellement que l'écoute en ligne de l'émission. Il est 17h sur France Culture, et dans quelques instants, du côté de chez soi, à l'IREBI.